Je viens en fin de cycle, en fin d'un cycle qui avait pour sujet, faut-il demander pardon pour le passé de l'Église? Et tout spécialement aujourd'hui, c'est faut-il demander pardon pour la contre-révolution? On parle donc beaucoup de demander pardon pour les prétendues fautes de l'Église. Beaucoup dans l'Église et dans sa hiérarchie voudrait réconcilier l'Église et la Révolution. Le pape et les évêques disent ou laissent entendre que la Révolution était bonne dans son essence et sont gênés par la contre-révolution catholique, qu'ils mettent volontiers sur le même plan que la Révolution. Parmi les prêtres et les fidèles, certains, logiquement, vont jusqu'à condamner ouvertement la contre-révolution. Alors qu'en est-il? Qu'est-ce que la contre-révolution? Ce n'est pas une révolution contraire à la précédente, mais c'est le contraire de la révolution. Alors qu'est-ce que la révolution? C'est le refus de tout ordre voulu par Dieu et non pas choisi par les hommes. Ce n'est donc pas une simple révolte religieuse, ni politique, ni sociale, mais tout cela à la fois. Car c'est, dit Mgr Gaume, la haine de tout ordre que l'homme n'a pas établi et dans lequel il n'est pas roi et Dieu tout ensemble. Dieu détrôné et l'homme à sa place. Et encore, dit Mgr de Ségur, la révolte érigée en principe et en droit. Ce qui fit dire au vénérable Pie IX, après Joseph de Maistre, la révolution est inspirée par Satan lui-même. La contre-révolution est donc le retour à l'ordre voulu par Dieu dans la religion, l'État et la société. La Révolution française est satanique dans son principe, disait Joseph de Maistre. Elle ne peut être véritablement finie, tuée, exterminée que par le principe contraire. Le sujet étant vaste, je suppose connue la nature et les manifestations de la Révolution et m'attacherai à la seule contre-révolution. Pour ne m'étendre pas trop, je me limiterai en principe à la France et à la période de 1789 à 1815, ne parlant qu'accidentellement des autres pays et de la période de 1815 à nos jours, où la Révolution a pris de nouvelles manières, mais non pas une nouvelle nature, et où la contre-révolution a dû également adapter ses réactions, mais non pas ses principes. La contre-révolution française, s'étant étendue à toutes les provinces et à toutes les frontières, je n'ai pas la prétention d'en donner une fresque complète, mais je donnerai des exemples parmi ceux que j'ai pu connaître. J'examinerai d'abord les manifestations de la contre-révolution, ensuite les agents de la contre-révolution, enfin les raisons de la contre-révolution. Les deux dernières parties découleront naturellement de ce qui aura été dit dans la première et seront donc sensiblement plus courtes. Donc d'abord, les manifestations de la contre-révolution. Il y a d'abord l'abstention, qui est la réaction la plus simple. Abstention d'abord pour sauver sa vie. Le 10 août 1792, un tiers des députés de l'Assemblée législative siège. Les deux autres tiers, terrorisés par l'émeute triomphante, n'osèrent venir. Ce qui n'est pas chez eux d'ailleurs une volonté de contre-révolution, mais déjà une réaction involontaire à la révolution. Lors des élections, d'ailleurs illégales, à la Convention du 2 au 20 septembre 1792, on massacrait dans les prisons de Paris et d'ailleurs. Aussi, sur 7 millions d'électeurs, 6 300 000 s'abstinrent, de gré ou de force. Seuls les révolutionnaires les plus enragés pouvaient voter librement et sans risque de mort. L'abstention est donc là, au moins chez la plupart, un acte contre-révolutionnaire plus ou moins conscient. Abstention pour sauver sa vie, ensuite, en allant plus loin, abstention par refus explicite de la révolution. Après le coup d'État du 4 septembre 1797, accompli par Barras, grâce à l'aide des généraux Bonaparte et Augereau, qui annule les élections royalistes de mars-avril 1797, aux élections suivantes d'avril 1798, tous les modérés s'abstinrent en masse. À quoi bon ? Ensuite, il y a l'abstention dans les élections ecclésiastiques, instituées par la constitution civile du clergé. Ainsi, dans le nouveau diocèse de la Haute-Loire, ancien diocèse du Puy, modifié et considéré comme vacant par le refus de serment de M. de Galard de Thérobe, évêque du Puy, comte de Velay, les élections ont lieu le dimanche 27 et le lundi 28 février 1791. Sur 343 électeurs du département, 175 seulement se présentent. Du Brivadois révolutionnaire, tous sont présents. De Lissingelais restés catholiques, presque seuls quelques protestants sont venus. Les autres électeurs d'Issingeaux refusent d'élire un successeur à leur évêque légitime chassé par la Révolution. C'est donc un acte contre-révolutionnaire que cette abstention. Après une messe célébrée au son du Saïra et dans un tumulte indescriptible, messe à laquelle plusieurs électeurs refusent d'assister car elle est célébrée par un prêtre assermenté, le président, M. Lavie, monte en chaire et déclare qu'il reconnaît toujours comme évêque M. de Galard et refuse, dit-il, de prendre aucune part à une élection au-dessus de son mandat et contraire à ses principes religieux et politiques. Les électeurs du monastier et d'autres font de même, refusent de prêter serment et se retirent parmi les cris et les menaces. Acte contre-révolutionnaire, là encore. Il resta 145 présents. 20 votèrent pour l'évêque légitime, et leur vote fut annulé. Enfin, après deux votes, le curé de Saint-Pierre de Brioude, au diocèse de Saint-Flour, M. Delcher, est élu par 73 voix, ce qui fait 58% des suffrages retenus, 50% des votants, 42% des présents, 21% des électeurs, eux-mêmes étant d'ailleurs une infime minorité des habitants. Cette journée qui s'était voulue un acte d'unité révolutionnaire fut finalement un acte de profession contre-révolutionnaire. Toujours dans les abstentions par refus explicite de la révolution, vous avez l'abstention dans les ventes des biens nationaux, soit laïcs, soit ecclésiastiques. Encore que la présence dans ces ventes ne soit pas toujours une preuve d'idées révolutionnaires. L'ambiguïté du début, en effet, les achats par des parents, amis, serviteurs, fidèles, décidés à les rendre à la première occasion à leur propriétaire légitime, rendent la chose relative. Mais dans l'ensemble, l'abstention de ceux qui étaient assez riches pour en acheter est un acte de contre-révolution. Abstention pour sauver sa vie, abstention par refus explicite de la révolution. Il y a enfin une possibilité d'abstention contre-révolutionnaire de principe. Et il y a un cas très typique. Lors du procès du roi Louis XVI, un député, un seul, Morisson, refusa de voter par principe, car le roi n'est justiciable que de Dieu. L'Assemblée, dit-il, a décrété qu'elle porterait un jugement, et moi, je ne crois pas que Louis soit justiciable. Je m'abstiens donc de prononcer. Il fut le seul député à être conséquent avec le principe royal. L'abstention est une première manifestation de la contre-révolution. La manifestation suivante, c'est le refus. Et d'abord, le refus de subir les injustices révolutionnaires. Et pour commencer, le refus des assignats, tombé de 1789 à 1796 à 1/2 pour 1000 de leur valeur. 1000 francs en assignats valaient donc 50 centimes en numéraire. Puis, ensuite, refus des mandats territoriaux qui avaient remplacé les assignats et qui tombèrent, eux, de 1796 à 1797 à 1% de leur valeur. Autrement dit, 1 000 francs en mandats territoriaux valaient 10 francs en numéraire. Ces billets, aussi bien les assignats que les mandats territoriaux, durent avoir un cours forcé, accompagné de l'obligation de les utiliser pour toutes les transactions, avec amende et peine pour les récalcitrants. Mirabeau disait: douter de la valeur de l'assignat, c'est douter de la révolution. Les gens doutèrent donc de la révolution et préférèrent ne pas vendre plutôt que d'être payés en papier. Et le commerce est paralysé. Dans certaines campagnes et dans certaines villes, ainsi à Angers en 1795, les paysans vendent ouvertement contre de l'argent. L'on disait, vous m'excuserez, les écus sont des écus, les assignats des torche-cul. Refus des assignats, ensuite refus des emprunts forcés, notamment en 1796 par le directoire. Un policier note alors: on paraît en général décidé à laisser faire saisie et vente de ces meubles plutôt que de se soumettre au paiement. Enfin, refus fréquent des impôts qui se multiplient sous la Révolution, d'autant que celle-ci avait laissé entendre qu'ils diminueraient au contraire. Les impôts jusqu'en 1799 rentrent très mal. Il y a des retards parfois de plusieurs années. Et parfois, la confusion en est devenue telle que l'administration ne sait plus qui doit quoi. Refus des injustices, refus de subir les injustices révolutionnaires. Il y a eu davantage refus d'accomplir les injustices révolutionnaires. Et d'abord, refus des usurpateurs de biens dits nationaux, le refus de communiquer avec eux, donc. Ces usurpateurs de biens nationaux sont mal vus et méprisés, et encore en certaines campagnes pendant une bonne partie du XIXe siècle. Ce sera une délimitation entre révolutionnaires et contre-révolutionnaires, hein, au XIXe siècle notamment. Aujourd'hui encore, les membres de la petite église, il en reste en Poitou, en Charolais, non loin d'ici, et ailleurs, prennent soin de ne pas acheter de tels biens. Refus ensuite des serments par les prêtres et les évêques, et surtout des trois serments suivants, serments schismatiques de la Constitution civile du clergé en 1790, serment de liberté-égalité en 1792 et serment de haine à la royauté en 1797. Tous trois condamnés ou désapprouvés par le pape Pie VI et la plupart des évêques. Le 4 janvier 1791, l'Assemblée constituante somme ses membres prêtres de prêter serment. La plupart refusent. Étonnés d'une telle fermeté qui tourne à la profession de foi, les révolutionnaires suppriment l'appel nominal et demandent: qui veut prêter serment? L'évêque de Poitiers, M. de Beaupoil de Saint-Aulaire, se lève. On espère une faiblesse. Je ne veux pas déshonorer ma vieillesse, dit le prélat. Je ne veux pas prêter serment. Je prendrai mon sort en esprit de pénitence. Cette journée qui devait être le triomphe de la Révolution est devenue finalement la gloire de la contre-révolution. Refus ensuite, et refus conséquent, des curés et des évêques intrus. D'abord, des prêtres élus refusent leur élection. Les électeurs doivent parfois recommencer plusieurs fois l'élection. Parmi ces prêtres, certains le font par refus de participer à la nouvelle hiérarchie révolutionnaire. Les prêtres constitutionnels sont ignorés, tandis qu'on se presse dans les oratoires des prêtres catholiques, que les révolutionnaires s'efforceront de fermer. Mais dans certains diocèses, outre la Vendée et autres terres insurgées, Les prêtres catholiques célèbrent ouvertement dans leur Église, avec l'accord tacite, voire l'encouragement, des municipalités, comme dans les diocèses du Puy ou de Mende, ou dans les diocèses de l'ancienne Vendée militaire, même après la fin des combats, diocèse de Luçon, La Rochelle, Nantes, Angers, Poitiers. Les couvents refusent de recevoir les évêques intrus. En Arles, M. Roux, métropolitain intrus des Bouches-du-Rhône, élu à la place de l'archevêque d'Aix et de l'archevêque prince d'Arles et Primat, se présente en un couvent avec la garde nationale et fait ouvrir de force. Le commandant intime aux religieuses l'ordre de s'agenouiller devant l'usurpateur. La supérieure répond « Nous ne reconnaissons pour archevêque que M. Dulot ». On menace de les massacrer, mais l'intrus doit se retirer sans avoir rien obtenu. Dans beaucoup d'endroits, les évêques et curés ne peuvent prendre possession qu'avec l'aide de la force armée. M. Poudroux, évêque intrus de l'Hérault, ne pourra parvenir à son évêché de Montpellier que grâce à l'armée. Il en gardera le surnom d'évêque des baïonnettes. Peu après, il trouve devant chez lui une potence avec l'inscription « Évêque des baïonnettes, par toi nous commencerons ». Les curés, intrus bien sûr, sont l'objet de brimades pour les faire partir de la part des fidèles qui refusent d'accepter ces usurpateurs schismatiques qu'on leur impose. Le nouveau curé intrus de Saint-Lô à Angers, censé remplacer le fameux M. Bernier, arrive à l'église. Les cloches qui ont été remontées ne peuvent être sonnées. Les mèches des cierges qui ont été mouillées ne peuvent être allumées. Les vases sacrés ont été enlevés, les ornements cousus par le milieu. À Montpellier, pour rappeler le reniement de Saint-Pierre, les femmes de la ville imitent le cri du coq sur le passage des constitutionnels et pour suppléer à leur voix défaillante, élèvent des coqs à cette fin. À Arôles, en Velay, au diocèse du Puy, des femmes répétèrent à qui voulait les entendre que l'intrus pouvait se contenter d'apporter deux chemises car il serait dans la terre dans moins de 15 jours. Le premier élu n'osa venir. Le deuxième, non plus. Le troisième arrive accompagné des gendarmes. Il n'a qu'un fidèle à la messe. On lui refuse nourriture et bois qu'il doit faire venir de l'extérieur. On lui détruit les murs de son jardin, arrache ses plantations, suspend un chien crevé à sa cheminée, lui chante en face des chansons moqueuses. Les évêques intrus sont mal reçus aussi. Monsieur Rodrigue, évêque intrus de Vendée, arrive le 11 juin 1791 à Luçon et se rend le lendemain à l'évêché, sous la protection de la troupe. Chemin faisant, quelqu'un lui glisse un billet. Il y lit « Ad quid venisti », le mot de Jésus à Judas, « Qu'es-tu venu faire ?» Plus loin, un second billet, « Iuda osculo me tradis », « Judas, tu me trahis par un baiser ». M. Delcher, évêque intrus de la Haute-Loire, arrive au Puy le 7 mai 1791. Le directoire du département a décidé officiellement d'être absent. Sur son passage, les gens ferment ostensiblement portes et fenêtres. Au milieu d'une rue, l'intrus trouve un drap mortuaire. Dans le jardin du séminaire, une potence. Quand M. Prudhomme de la Poussinière, évêque intrus de la Sarthe, vient célébrer dans la cathédrale du Mans, le curé d'Esbois monte en chaire et lit l'interdit prononcé contre l'intrus par l'évêque légitime du Mans, M. de Jouffroy de Gonsens. L'exemple vient de haut. Quand la famille royale de retour de Varennes loge au palais épiscopal de Meaux, l'évêque légitime, M. de Polignac, a emporté ses meubles. Et l'évêque intrus de la Seine-et-Marne, M. Thuin, a trouvé comme il a pu quelques meubles pour recevoir le roi et sa famille. Le lendemain, au départ, l'évêque intrus présente ses excuses pour la façon rudimentaire de l'accueil. Le roi répond « Quand on n'est pas chez soi, l'on est dispensé de s'excuser ». Certains évêques provoquent eux-mêmes les réactions. Monsieur Nogaret, évêque intrus de la Lozère, au cours d'un voyage dans le diocèse de Mende qu'il a usurpé, s'arrête un vendredi dans une auberge à Nasbinal et commande un repas gras. À peine a-t-il levé sa fourchette qu'une troupe de femmes pénètre et renverse sa table, l'obligeant à s'enfuir. Refus donc des prêtres intrus, refus également des décadis, censés remplacer les dimanches. En beaucoup d'endroits, malgré les amendes, l'on continue à travailler le jour du décadis et à chômer le dimanche, au point que dans certaines régions, les pouvoirs révolutionnaires renoncent aux amendes. Tout cela peut aller jusqu'au refus des tribunaux. Le 18 novembre 1795, M. Brignon, curé légitime et jureur de Dore-l'Église, près la Chaise-Dieu au diocèse de Clermont, est tué dans son presbytère par les compagnons de la Ganse Blanche en raison du mal qu'il a fait aux catholiques, notamment en dénonçant plusieurs. L'enquête a lieu à Arlan et à Ambert, ville assez proche, puis est évoquée à Rion, plus lointain. 45 témoins sont convoqués pour le 8 septembre 1796. Aucun ne se présente. De nouveau, 28 témoins sont convoqués pour le 16 octobre 1796. 15 ne comparaissent pas. Quelles sont les raisons invoquées? Pour le premier, fièvre intermittente, hydropysie. Pour le deuxième, chute, vertige, tournement de tête. Pour le troisième, phtisie pulmonaire. Pour le quatrième, suite d'une maladie de Nemois. Pour le cinquième, ulcère, crachement de sang. Pour le sixième, rhumatisme aigu. Pour le septième, loupe au genou droit. Pour la huitième, femme aveugle et pauvre. Pour le neuvième, impossibilité de marcher, jambes cassées. Pour le dixième, maladie de nerfs. Pour la onzième, femme venue à Ambert sur une charrue à deux roues attelée d'une paire de bœufs, trop fatiguée pour continuer la route. Pour la douzième, fille de 13 ans, pauvre, ne pouvant faire le voyage qu'en mendiant son pain et en se faisant accompagner par sa mère. Pour la treizième, femme trop pauvre pour entreprendre le voyage. Pour le quatorzième, s'était purgé le 9 octobre, et son indisposition sans être conséquente lui faisait craindre qu'elle n'empirât par la fatigue d'un voyage long et pénible. Pour le quinzième, un défaut de conformation dans les extrémités inférieures, un défaut de force dans la colonne vertébrale. Et il y a là une mauvaise volonté évidente à venir témoigner, par double refus, d'avoir affaire à la justice révolutionnaire et de découvrir les responsables de la disparition d'un homme détesté de la majeure partie des paroissiens. Après l'abstention et le refus, il y a la fuite. Fuite d'abord pour sauver sa vie. Dès juillet 1789, le comte d'Artois, la famille de Condé, celle de Polignac, s'enfuit de France sur demande du roi en raison des nombreuses menaces de mort qui ont été proférées contre eux, parce qu'ils n'ont pas caché dès le début leur hostilité à la Révolution. Dans les années suivantes, beaucoup de gens s'enfuient parce qu'on a voulu les arrêter, qu'on les a menacés de mort, qu'on a pillé leurs maisons, leurs châteaux, etc. On n'hésite pas à inscrire d'office des gens sur la liste des émigrés afin de confisquer leurs biens, ce qui oblige ces personnes à s'exiler réellement pour éviter la peine de mort attachée aux émigrés. Fuite pour sauver sa vie, ensuite fuite par force. Le 26 août 1792, l'Assemblée législative oblige tous les prêtres insermentés à partir pour l'exil. Beaucoup de prêtres partent alors tout à fait officiellement, même si leur voyage en France se révèle souvent dangereux. Quelques-uns font semblant de partir. Ces prêtres qui s'exilent espèrent parfois revenir bientôt, ou encore, comme le dit M. de Gallard de Thérobe, évêque du Puy, former une réserve. Beaucoup d'évêques sont chassés de leur diocèse et luttent pied à pied. L'évêque d'Elne, Perpignan, M. de Léris des Ponchés, resté député aux États généraux, devenu assemblée constituante jusqu'au bout, ne peut retourner dans son diocèse où l'on ne veut pas de lui, ni dans sa famille dont le château a été brûlé. Il part alors pour l'exil. L'évêque Dupuis, comte de Velay, M. de Galard de Thérobe, se maintient en son séminaire, résidence de l'évêque depuis l'incendie du palais épiscopal, bien que son prétendu successeur soit déjà élu. Il en profite pour faire des ordinations et des confirmations. Mais la municipalité le somme de partir avant l'arrivée de l'intrus prévue le 7 mai 1791. Le 5 mai, il quitte donc sa ville épiscopale pour son château de Monistrol. Là, le curé légitime mais jureur ameute la municipalité contre l'évêque. Et le 22 mai, celle-ci le somme de quitter la ville dans les 24 heures. Il part le jour même et s'installe en la chartreuse de Ripaille, en Savoie. Chassé en 1792 par les troupes révolutionnaires, il se réfugie à l'abbaye de Saint-Maurice, en Valais. Chassé en 1798 par les troupes révolutionnaires, il finit par mourir en Bavière. L'évêque comte de Léon, M. de Lamarche, est averti le 25 février 1791 qu'on vient l'arrêter. De suite, il quitte le palais épiscopal, puis traverse la Manche dans une barque de pêche, au risque de périr noyé en cas de tempête. Mais il arrive, au bout de 4 jours, en Angleterre. Fuite pour sauver sa vie, fuite par force, fuite enfin par refus de la Révolution. Beaucoup de jeunes gens, déjà peu favorables à un service militaire, même royal, refusent de servir la République, c'est-à-dire tout ce qu'ils détestent. En Gévaudan, l'on dit « On nous a tué le roi, brûlé nos églises et nos prêtres, et on veut nous faire partir au loin pour tuer. Nous préférons mourir dans nos chaumières, que ceux qui ont pris les biens d'église et des émigrants aillent se battre. » À Thoiré, en Bretagne, l'on dit « Que ceux qui ont commencé la guerre la fassent. Ils ont tué notre roi, ils ont chassé nos prêtres, ils ont vendu les biens d'église. Ils veulent à présent nos corps, mais ils ne les auront pas. » Et les guerres de Vendée commencent à l'occasion du tirage au sort des soldats le 10 mars 1793. Jean-Marie Vianney, le futur Saint-Curé d'Ars, alors séminariste de l'archidiocèse de Lyon, est incorporé de force dans l'armée malgré son exemption. Obligé de rejoindre le 5 janvier 1810 un régiment en partance pour l'Espagne, il oublie le temps dans une église et le régiment part sans lui. On l'envoie le lendemain 6 janvier pour rattraper le régiment. Sur la route, fatigué, il se repose un instant. Un soldat réfractaire le prend pour un réfractaire lui aussi, l'invite à le suivre et à se cacher. Jean-Marie Vianney hésite, puis accepte, et n'en aura jamais aucun remords. Sur 1 200 000 hommes mobilisés en 1794, 800 000 ont déserté. Sous l'Empire, en certains lieux, la moitié des conscrits désertent. Le Saint-Curé d'Ars a été caché par un maire. À Mende, en 1793, la garde nationale était formée à l'art de la guerre, sous la responsabilité du maire, par des déserteurs. Alors, où va-t-on? Il y a ceux qui se cachent dans le pays, prêtres réfractaires et soldats réfractaires principalement. Les paysans de Franche-Comté en foule se réfugient en Suisse. Les paysans des Pyrénées en grand nombre passent en Espagne. Les prêtres flamands vont dans les Pays-Bas. Ceux de Bretagne franchissent la Manche pour aller en Angleterre. L'évêque prince de Strasbourg, landgrave de Basse-Alsace, le cardinal prince de Rouen-Guéménée passent le Rhin pour se réfugier dans la partie badoise de son diocèse. Et 50 000 paysans d'Alsace s'y réfugie aussi pendant l'hiver 1794. Nombreux sont les Dauphinois en Savoie et en Piémont. On passe ainsi la frontière en grand nombre pour se protéger des violences de la Révolution. À la prise de Toulon par les armées révolutionnaires du général Bonaparte le 19 décembre 1793, les habitants s'enfuient en foule sur les navires anglais dans la mesure des places. Les Lyonnais ne pourront pas s'enfuir en raison de l'encerclement de la ville. Le général Perrin de Crécy le tentera avec 2 à 3 000 hommes. Seule une cinquantaine y parviendra, tous les autres périront. Abstention, refus, fuite. Il y a enfin le combat. Le combat se présente sous différentes formes. D'abord sous forme spirituelle et ensuite sous forme guerrière. Le combat spirituel. Les évêques et les prêtres protestent et encouragent leurs ouailles. Monsieur Ferron de la Ferronnaille, évêque comte de Lisieux, dont le diocèse est annexé par la Révolution à celui de Bayeux, écrivit à l'évêque de Bayeux, monsieur de Chélu, pour le prier de, en le priant de ne pas entamer sur son territoire. Et l'évêque de Bayeux lui répondit avec courtoisie, « Soyez bien tranquille sur mes projets, je connais les bornes de mon diocèse que je ne franchirai pas. » Monsieur de la Marche, évêque comte de Léon, reçoit la notification de la suppression de son évêché adressée à monsieur l'ancien évêque de Léon. Il renvoie la lettre sans l'ouvrir en disant « Le paquet est adressé à monsieur l'ancien évêque de Léon, le paquet n'est donc pas pour moi. » Monsieur de Marboff, archevêque comte de Lyon, primat des Gaules, siège conservé, reçoit du directoire départemental une lettre où il est appelé évêque métropolitain de Rhône-et-Loire. Il répond « Je vais vous parler en évêque, en archevêque, en primat des Gaules, titres qui se sont perpétués dans mon siège depuis Saint-Irénée jusqu'à moi. » L'évêque de Quimper, comte de Cornouailles, M. Conen de Saint-Luc, se sentant mourir, tient à préparer une lettre pastorale condamnant la constitution civile du clergé et les décrets suivants. Texte qu'il approuve. Il meurt le 30 septembre 1790. Le 5 octobre ont lieu les funérailles en la cathédrale en présence d'un grand nombre de prêtres et de fidèles. À la fin des obsèques, les chanoines lurent la lettre ultime de l'évêque, ce qui fit grande impression. L'ancien archevêque de Vienne, M. Daviot Dubois de Sanzé, devenu archevêque concordataire de Bordeaux, proteste contre le catéchisme impérial, où le général révolutionnaire devenu empereur laïciste est adulé au-delà de tout ce qu'autrefois on a pu dire des rois très chrétiens. Beaucoup de prêtres refusent d'enseigner ces passages du catéchisme qui introduisent des devoirs nouveaux. Et le vénérable père François Gachon, mort à Ambert au diocèse de Clermont en 1815 au début de la seconde restauration en odeur de sainteté, refusera pendant plusieurs années de l'utiliser, puis ne l'utilisera que comme complément du traditionnel catéchisme de Clermont. Dans le combat spirituel, il y a aussi les messes clandestines. Il y eut des prodiges d'héroïsme accomplis pour maintenir les messes malgré les lois révolutionnaires, prodiges de la part des prêtres et des fidèles. En la ville du Puy, la messe était célébrée clandestinement en plus de 70 lieues. En 1791, la municipalité du Puy fait cerner l'église des Augustines de Vals, où se célèbre une messe catholique en présence du juge de paix. Le maire du Puy somme le juge de paix de faire évacuer l'église. Celui-ci répond qu'il ne veut pas se damner pour les beaux yeux de la Constitution. À Saint-Hilaire de Mortagne, dans la future Vendée militaire, au diocèse de La Rochelle, le curé, avant de s'exiler, dit « Chaque dimanche, je dirai la messe à cette même heure pour vous. Vous vous y unirez par l'intention et par la prière. » N'assistez jamais à la messe d'un intrus. Chaque dimanche à 10 heures, les cloches sonnent, bien que l'église soit fermée. et les fidèles prient dans le cimetière en silence. « Imbécile, dit un gendarme, votre curé est à 100 lieues d'ici et vous croyez assister à sa messe ?»« La prière, réplique un paysan, lumineux, fait plus de 100 lieues. Elle monte de la terre au ciel. » Et comme le gendarme insiste, « Alors, vous vous croyez ici dans une église ?» Lumineux se redresse, « Nous sommes ici dans un lieu saint. Nous sommes à genoux sur la tombe de nos pères. » Devant l'attitude menaçante des fidèles, les gendarmes doivent se retirer et la messe invisible continue. À la Conciergerie, à Paris, d'août 1793 à juillet 1794, grâce à la complicité du gardien, M. Emery, supérieur de Saint-Sulpice, disait la messe tous les jours. Il y distribuait la communion, et lorsqu'il y avait des condamnés, il avait l'autorisation de passer la nuit avec eux dans la chambre d'attente pour les confesser et les préparer à la mort. Dans les mêmes conditions, M. Magnin, prêtre présent à Paris, parvint plusieurs fois dans le cachot de la reine Marie-Antoinette et au début d'octobre 1793, il célébra la messe devant elle. Les prêtres déportés aux îles de Ré et d'Oléron de 1797 à 1800 parvinrent dans les combles à célébrer clandestinement la messe et à garder même le Saint-Sacrement, établissant une adoration perpétuelle. Les pierres d'autel étaient des ardoises consacrées par l'évêque de Saint-Papoule, M. de Maillet de la Tour-Landry, qui était parmi les déportés. Après les messes, il y a les ordinations. Ordination à l'étranger, d'abord. 22 séminaristes du diocèse du Puy se rendent, malgré les dangers, en Savoie ou en Valais, se faire ordonner par leur évêque, M. de Galard de Thérobe. Les séminaristes des diocèses de Léon et de Nantes traversent la Manche pour se faire ordonner en Angleterre par leurs évêques, messieurs de la Marche et de la Laurencie. Dans l'archidiocèse de Lyon, il existe 5 séminaires clandestins et 23 prêtres se feront ordonner à l'abbaye de Saint-Maurice en Valais, avec des lettres dimissoriales des grands vicaires préposés au diocèse par l'archevêque. Ordination en France également. L'archevêque comte de Vienne, primat des primats, M. Davio Dubois de Sanzé, revenu dans son diocèse en 1797 et caché dans les monts du Vivarais, ordonne des prêtres. En pleine terreur, à Paris, l'évêque de Saint-Papoule, M. de Maillet de la Tour-Landry, fait aussi des ordinations. Il s'agit là d'un acte d'autant plus contre-révolutionnaire qu'il assure l'avenir du sacerdoce, pourtant prohibé par les lois révolutionnaires. On fait même plus, il y a un synode. Le 4 août 1795, sur l'ordre de l'évêque baron de Luçon, M. de Mercy, un synode se tient sous la protection de l'armée de Charette à Pont-de-Vie, sous la présidence d'un grand vicaire de l'évêque, pour recevoir les instructions de l'évêque à propos du problème des baptêmes et des mariages faits par les curés jureurs, des séminaristes, des religieuses à soutenir. Chose à peine croyable que cette institution tranquille, en pleine persécution et en pleine guerre, marque de la pérennité de l'Église. Combat spirituel, mais aussi combat guerrier, et cela tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Combat guerrier à l'intérieur. Il y a l'acte individuel du meurtre de Marat par Charlotte de Corday d'Armon, qui pensera faire là le type même du tyrannicide le 20 juillet 1793. Est-ce licite? Pour un tel acte, il faut, premièrement, un tyran d'usurpation, duquel naissent de grands maux, ce qui était le cas. Deuxièmement, le consentement de la plus saine partie des gens, ce qui était le cas également. Troisièmement, la possibilité de recourir à un supérieur, c'était hélas aussi le cas. Quatrièmement, une chance de succès d'où naîtra un plus grand bien. Tout cela est donc réalisé dans ce cas, sauf la quatrième condition, où Charlotte de Corday d'Armon se trompait sur le résultat de son acte. Elle dira « J'ai tué un homme pour en sauver 100 000 ». Elle était persuadée, en mourant, qu'elle avait arrêté la terreur. Il y a bien sûr aussi la Vendée militaire, avec la grande armée catholique et royale de Vendée, soulevée en 1793, qui, après bien des victoires, doit signer la paix en 1695. En acceptant de signer le traité de la Jaunée avec Charette le 17 février, puis avec Stofflet celui de Varade le 2 mai, et avec les Chouans de Bretagne celui de la Mabilée le 20 avril, la République acceptait de signer un traité de puissance à puissance avec les généraux du roi. Dès 1791, avec le marquis de la Rouerie, des tentatives d'insurrection eurent lieu, mais elles échouèrent car les paysans, bien qu'hostiles à certaines mesures révolutionnaires, n'avaient pas encore été poussés à bout. Mais peu à peu, les prêtres sont chassés, les seigneurs aussi, le roi est tué. Les paysans supportent cela difficilement, mais ils refuseront de partir à l'armée pour servir un régime qui chasse ou tue roi, seigneur et prêtre et qui vide les églises, et ce sera l'insurrection. Il y aura d'ailleurs peu de temps entre la mort du marquis de la Rouerie le 30 janvier 1793 et le déclenchement de la guerre le 10 mars 1793. Les paysans chouans auront pris les armes dans le Maine dès 1792 avec Jean Chouan, lorsque le 15 août 1792 a lieu une levée d'hommes. Jean Chouan déclare « Quand le roi demandera que nous prenions les armes, nous marcherons tous. Mais s'il faut partir pour aller défendre ce que vous appelez la liberté, vous qui la voulez, allez vous battre pour elle. » Et tous alors chassent les gendarmes. La guerre reprendra en Vendée en 1795, après la mort et peut-être l'assassinat de Louis XVII par ses geôliers. Vaincue en 1796, elle reprendra en 1799. Vaincue en 1800, elle reprendra pendant les 100 jours en 1815. Monsieur de Hercé, évêque comte de Dole, accompagnera l'expédition de Quiberon en 1795 et sera fusillé à Vannes. Pendant ce temps, la chouannerie ne cessera pratiquement pas en Bretagne de 1791 à 1814, au point qu'Édouard de la Haye-Saint-Hilaire, chef chouan, enlève le 23 août 1806 monsieur de Pensemont, évêque concordataire de Vannes, devenu un fervent du nouveau régime et fulminant contre les chouans, et de plus, coupable d'avoir gardé 21 000 francs qu'il avait eus en dépôt pour les chouans autrefois. Il ne délivre l'évêque qu'après que la somme eut été payée et deux chouans délivrés de prison. La chouannerie se développera aussi dans le Maine, en Anjou, en Normandie. En Vivarais, en 1790, 1791 et 1792, trois camps armés ont lieu à Jalès, à l'abri des Cévennes, à l'instigation de Claude Allier, prieur curé de Champenas. Il y eut jusqu'à 20 000 hommes. Ce fut le début d'insurrections épisodiques dans le Vivarais, le Velay et le Gévaudan. À la même époque, M. de Caslane, évêque de Mende, comte de Gévaudan, n'hésitez pas à organiser une petite armée dans son château de Chanac. On parlera de la petite Vendée du Velay et du Vivarais, avec l'armée chrétienne et royale de l'Orient, commandée par le général comte de La Motte, puis par le général marquis de Surville. Le comte de Saillant, en 1792, faillit prendre le Puy. En Gévaudan, l'armée chrétienne du Midi, commandée par Charrier, prendra en 1793 Mende et toutes les principales villes du pays. Tous ces pays, ainsi que l'Auvergne, furent entre-temps semés de chouanneries, au moins jusqu'en 1802. Dans le Languedoc, il y a plusieurs chouanneries. En 1799, Toulouse est assiégée par près de 20 000 chouans. Bordeaux et l'Aquitaine se soulèvent de leur côté en 1799. En Berry et en Nivernais, on attend Charette. Il y a même des Berrichons dans l'armée vendéenne. Finalement, on décide l'insurrection pour aider Charette. Cette insurrection éclate le 2 avril 1796 et prend Sancerre. L'armée catholique et royale du Berry, sous les ordres du général Lepicard de Philippot, se disperse cependant à l'annonce de la mort de Charette. on a parlé de Vendée-Sancerroise. La Corse se révolte le 26 mai 1793 et fait appel aux Anglais. La Corse résistera à la Révolution jusqu'en 1796. La ville de Lyon se révolte le 29 mai 1793 devant la terreur de Chalier et tiendra tête aux armées de la Convention avec beaucoup d'héroïsme, malgré un bombardement quotidien qui n'hésitera pas à tirer volontairement sur l'hôpital du 9 août jusqu'au 9 octobre. La ville de Marseille fera de même le 6 juin 1793 jusqu'au 25 août 1793. La ville de Toulon aussi, à partir du 12 juillet 1793, et ouvrira le 28 août ses portes aux flottes anglaises et espagnoles, mais sera prise le 19 décembre par le général Bonaparte. La ville de Paris tenta de se soulever le 5 octobre 1795, mais les insurgés furent mitraillés par le général Bonaparte sur les marches de l'église Saint-Roch et furent définitivement vaincus dès le lendemain 6 octobre. En somme, en 1793, presque toute la France sera en révolte et presque tous les révoltés reconnaîtront le roi Louis XVII. Combat guerrier à l'intérieur, combat guerrier aussi à l'extérieur. L'armée dite de Condé sera organisée par le prince de Condé dès 1792, et beaucoup de Français, surtout des nobles, émigreront pour ce faire, pour ce qu'ils estimeront leur devoir de servir le roi. L'armée ne sera dissoute qu'en 1801. D'autres vont combattre avec les Anglais ou avec les Russes. Le général Lepicard de Philippeau, l'ancien général des Sancerrois, ira s'opposer aux troupes de la Révolution venues s'emparer de l'Égypte et de la route de l'Orient, sous les ordres du général Bonaparte, et pour cela aidera les Turcs à défendre Saint-Jean d'Acre de mars à mai 1799. Ce sera la cause de la défaite révolutionnaire en Orient. Les manifestations de la contre-révolution ont donc été multiples et véritablement générales. De cela, on peut tirer facilement les deux autres parties qui ont pratiquement été faites au fur et à mesure. Je pourrais presque arrêter mon exposé ici. Tout est implicite ou même explicite dans ce que je viens de dire. Mais pour expliciter davantage, abordons donc ces deux parties. Mais d'abord la deuxième, les agents de la contre-révolution. Quels sont ces agents? Le roi a beaucoup varié dans ses actes. Il a fait des concessions à la Révolution, soit par contrainte, en assistant à la messe du curé constitutionnel à Pâques 1791, soit pour éviter le pire, en signant la constitution civile du clergé sur le conseil des deux archevêques désignés par le pape, et ce dans l'espoir, d'ailleurs vain, d'éviter le schisme, soit pour que les Français puissent se rendre compte de la nocivité des nouvelles institutions, en acceptant la constitution de 1791, soit pour contenter ces sujets dont ils croyaient les intentions pures, en acceptant la réunion des trois ordres en une seule assemblée le 27 juin 1789. Mais sa première réaction est hostile à la Révolution. Il refuse pendant près de deux mois la réunion des trois ordres en une seule assemblée du 5 mai au 27 juin 1789. Plusieurs fois, il essaiera d'arrêter la Révolution de façon trop peu énergique. Sa dernière réaction est hostile à la Révolution. Après la condamnation de la constitution civile du clergé par le pape le 13 avril 1791, le roi, que le remords d'avoir signé tenait déjà, décide de quitter Paris le 18 avril, ce que l'émeute empêchera. Ce sera l'un des principaux motifs de sa fuite à Metz le 20 juin, comme il le dira dans sa lettre laissée à Paris. Et dans son testament du 25 décembre 1792, il s'intitule « Roi de France ». Et non roi des Français, ce qui est la négation de la Révolution. Le roi réagira ainsi en raison du serment de son sacre de faire conserver en tout temps à l'Église de Dieu une véritable paix par tout le peuple chrétien. Les adversaires de la Révolution sont traités de façon générale d'aristocrates, mais il s'agit la plupart du temps de paysans ou d'artisans. Dans toutes les classes, on trouve des gens hostiles à la Révolution. 70% des victimes de la Révolution sont des paysans, des artisans ou des commerçants. La Grande et les Petites Vendées sont composées essentiellement de paysans. Le tribunal révolutionnaire de Paris condamne beaucoup d'artisans, de commerçants et de paysans. Sur 12 000 condamnés dont la qualité est connue, il y a eu plus de 7 500 artisans, commerçants et paysans. Proportionnellement, le clergé et la noblesse ont été plus victimes de la Révolution, ce qui a obligé beaucoup de leurs membres à voir clair très vite et à s'opposer à la Révolution. Le tiers-État ayant été moins directement et moins tôt victime de la Révolution, ses membres ont mis parfois plus de temps à voir clair, encore qu'il y ait des exceptions comme Antoine Rivarol ou Jacques Catelineau. Mais ils n'en seront que plus hostiles à la Révolution ensuite. Ce sont les paysans qui en Vendée vont chercher les nobles pour les placer à leur tête. Parmi ceux qui ont vu clair très tôt, il y a le comte d'Artois, futur roi Charles X, ou l'archevêque comte de Lyon, primat des Gaules, M. de Marbeuf, qui dans son mandement du 28 janvier 1789, donc avant le déclenchement de la Révolution, devant les premiers signes, écrivait « La foudre va bientôt éclater. Un esprit de vertige s'est emparé de toutes les têtes. Des idées nouvelles, substituées brusquement aux anciennes maximes, ont semé la discorde. Une subversion générale semble menacer toutes les institutions politiques, civiles et religieuses. N'est-ce pas ce déluge de productions impies dont nous sommes inondés et dont les auteurs s'acharnent à saper tout à la fois les fondements du trône et de l'autel ? Tous ces attentats contre le ciel et la terre qui ont réduit le royaume à l'état désastreux où il est aujourd'hui plongé. » Les femmes sont souvent très contre-révolutionnaires. Elles sont les premières à crier contre le curé intrus. Très ingénieuses à cacher les prêtres et à permettre les messes, elles sont actives même dans les chouanneries ou la Vendée. En 1815, devant la situation difficile où se trouve son frère, Louis du Verger de la Roche-Jacquelin, Lucie de la Roche-Jacquelin parcourt les paroisses, élève plus de 4000 hommes. Les enfants sont souvent d'excellents auxiliaires contre-révolutionnaires. Marie Papin, âgée de 17 ans, portait en 1794 la soupe à des soldats vendéens blessés et cachés. Elle est surprise par des bleus qui lui demandent leur cachette. Elle refuse. « Alors tu vas être fusillée. Je consens à mourir, dit-elle. Elle est alors découpée à coups de sabre et meurt sans rien dire. » Le jeune Larétrie a 15 ans lorsqu'il rejoint l'armée vendéenne en octobre 1793 à la tête d'une petite troupe qu'il a levée lui-même. Il est arrêté et grièvement blessé, mais on n'ose pas exécuter un enfant de 15 ans. Cependant, dans un mois, il aura 16 ans. On le soigne pour tenir un mois et le jour de ses 16 ans, on le condamne et on l'exécute. Un résumé se trouve dans les personnes condamnées à être guillotinées pour contre-révolution le 10 mai 1794. Une princesse, Madame Élisabeth, fille de France, tante de Louis XVII. Un évêque, M. de Loménie, archevêque de Trajanople et coadjuteur de Sens. Et un chanoine. De grands noms de France, Loménie, Crussol, Montmorin, Sérigny. Quelques artisans et domestiques, dont le domestique Dubois qui crie « Vive le roi » à chaque exécution. Plusieurs femmes. Tous ont de 21 à 76 ans. À l'étranger, les pays, et notamment les populations, réagissent à partir du moment où ils sont envahis. Chouannerie dans les Pays-Bas, la Belgique actuelle, envahie en 1792. Émeute en Savoie, envahie en 1792, émeute jusqu'en 1794, et les paysans, même après, restent hostiles. Une suite d'insurrections en Italie, envahie à partir de 1796. Insurrection presque générale et sans cesse renaissante jusqu'en 1799, du Piémont jusqu'en Calabre. Dans les deux Siciles, le cardinal Ruffo créa une armée chrétienne royale composée de tous les paysans insurgés. Puis, après une nouvelle invasion en 1799, des chouanneries jusqu'en 1814. Chouannerie d'Andreas Hofer au Tyrol, envahie en 1805. Révolte de toute l'Espagne, envahie en 1808. Révolte de la Russie, envahie en 1812. À cause de cela, la France sera haïe de toute l'Europe pendant la majeure partie du XIXe siècle. Et encore aujourd'hui, en Savoie, la Révolution demeure perçue comme une invasion étrangère. Et les contre-révolutionnaires savoisiens, y compris Joseph de Maistre, sont estimés même par ceux qui ne sont pas de leurs idées. Les étrangers présents en France participent aussi à la contre-révolution. Ainsi combattent en Vendée des soldats suisses survivant des massacres d'août et septembre 1792. Combattent dans les chouanneries vivaroises, Vélaves et Auvergnates, des soldats des armées autrichiennes et sardes faits prisonniers et évadés. Les souverains étrangers ont été souvent égoïstes tant qu'ils n'ont pas été concernés eux-mêmes. Mais le roi d'Espagne, Charles IV, fit tout ce qu'il pouvait, notamment en versant beaucoup d'argent et par de nombreuses démarches de son ambassadeur, pour sauver son cousin le roi Louis XVI, puis pour obtenir la délivrance de sa famille. Le cardinal d'Angleterre, de droit Henri IX, roi d'Angleterre, dernier des Stuarts, fut réclamé par le général Bonaparte lors de son couronnement impérial, non pour soutenir ses droits, mais pour faire pièce à Georges III de Hanovre qui régnait en Angleterre. Le pape Pie VII transmit la demande. Henri IX répondit: « Très Saint-Père, si le roi de France appelait à l'auguste cérémonie de son sacre dans la cathédrale de Reims le petit-fils de Jacques II d'Angleterre, malgré nos 79 ans, nous traverserions les monts. Mais nous ne devons rien au général Bonaparte, rien qu'une protestation contre la fortune. » Signé Henri Roy. Dieu lui-même n'hésite pas à faire œuvre de contre-révolution. Monsieur Jamon, ancien curé jureur de l'archidiocèse de Lyon, retiré à Montfaucon en Velay, décide de faire un discours dans l'église de Rocoule, un jour de Décadie, vers 1794. Parlant contre les prêtres, les saints, la Sainte Vierge et Dieu lui-même, qu'il prétend ne pas exister et qu'il veut remplacer par la raison. Le discours à peine fini, un orage épouvantable s'abat sur la paroisse et la grêle en quelques instants a broyé toute la récolte. Moins d'un quart d'heure plus tard, le soleil revient radieux. Quand la foule sort de l'église, elle peut juger de l'étendue du désastre. Chacun a compris que la colère divine est passée. Le prêtre sort alors de l'église. « Dieu t'a donné sa réponse, misérable blasphémateur, s'écrie-t-on de toutes parts. Il a exterminé nos blés pour nous punir de t'avoir écouté. Suce au loup !» Le prêtre apostat ne trouve son salut que dans une fuite précipitée. Comme on le voit, toutes les couches sociales ont été contre-révolutionnaires. La contre-révolution n'est ni un complot clérical, ni un complot nobiliaire, ni un complot royaliste, mais bien une réaction vitale de toute la population française et étrangère. Les paysans n'hésitent pas à entraîner, malgré eux, aux besoins, clercs et nobles. Monsieur Tarot, curé de Molivrier, en Vendée militaire, au diocèse de La Rochelle, prêchait le calme aux habitants. Un de ses paroissiens lui répondit un peu vivement: « Votre place est à l'église, laissez-nous vous défendre et foutez-nous la paix. » Le chevalier de charrette de la contrée se voit demander par ses paysans de prendre leur tête, qu'il refuse, car ce n'est pas raisonnable, leur dit-il. Alors une voix s'élève, c'est honteux pour un ancien officier du roi, et il cède. Maintenant, il nous reste à voir les raisons de la contre-révolution. La première, c'est la défense de soi. L'abstention, la fuite, l'insurrection, etc. ont souvent pour raison la défense de sa propre vie. Il s'agit là de légitime défense, quoi de plus naturel et de plus légitime. C'est la raison de l'insurrection de Lyon. Le piémontais Chalier sème la terreur dans la ville par ses réquisitions, ses arrestations, ses appels au meurtre. Jésus-Christ, dit-il, était un bon Dieu, il prêchait la miséricorde. Filles, mes camarades, vous m'entendez? La vengeance est mon cri. La population lyonnaise, effrayée et craignant pire encore, prend de force le 29 mai 1793 l'hôtel de ville au cri de « Vive la Convention, vive la République » et exécute Chalier le 16 juillet. La nouvelle municipalité multiplie les actes d'allégeance à la Convention et à la République, se réclamant de la résistance à l'oppression reconnue par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y aura certes des royalistes dans l'insurrection, le général Perrin de Précy, commandant en chef, des Chouans venus du Velay et d'ailleurs, mais il n'y aura jamais aucune marque de royalisme. Il s'agit donc là d'une simple défense de sa propre vie. Pourtant, dès le 12 juillet, la Convention décidait de marcher contre Lyon, parce que la Révolution se moque de la vie des hommes et toute opposition à sa terreur est considérée comme contre-révolution, ce que c'était implicitement. Dieu, dont les prescriptions juridiques de l'Exode, après les condamnations à mort des meurtriers, précise « Si le voleur est trouvé forçant une maison ou la minant et qu'il meurt d'une blessure reçue, celui qui l'a frappé ne sera pas coupable de son sang. » C'est la définition de la légitime défense. Quant à la fuite, notre Seigneur a dit « Lorsqu'on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. » Et saint Athanase d'Alexandrie dit qu'il ne faut pas vouloir nous livrer témérairement à nos perfides ennemis jusqu'à ce que Dieu manifeste sa volonté en arrêtant nos persécuteurs ou en nous livrant à nos persécuteurs. Défense de soi. Ensuite, refus de servir la Révolution. C'est l'origine de l'insurrection de la Vendée, de la chouannerie du Maine, de nombreux déserteurs, etc. Pourquoi? Parce que la Révolution s'attaque à la société, au roi, à Dieu et à ses prêtres, et que notre Seigneur nous a avertis, nul ne peut servir de maître, Dieu et Mammon, c'est-à-dire le Dieu des richesses et par là celui du monde. De plus, la Révolution obligeait ses armées à semer la terreur, le pillage, la mort et la profanation en France et en Europe. Accepter d'en être était prendre le risque de participer à ces horreurs. Troisième raison, la défense de la famille. Malgré le passage des actes de catholicité aux mains des prêtres jureurs en 1790 et l'établissement du mariage civil en septembre 1792, les catholiques refusent de passer devant le curé intrus et devant le maire. L'Église sera contrainte de tolérer le maire à partir du concordat de 1801. Ce n'est qu'une tolérance. Il s'agit là de la défense de la famille attaquée encore par le divorce institué en septembre 1792. Quatrième raison, la défense de la société. L'une des raisons des émeutes est la suppression de beaucoup de paroisses et donc la fermeture des églises, centre de la vie des villages. Sans compter la réduction des diocèses de 137 à 83. Ainsi, Sénèse, en Provence, petite ville active avec son évêque et son chapitre de chanoines, devient une bourgade sans vie. Les paysans, dans l'ensemble, sont attachés à leur seigneur, au moins là où ceux-ci résident. Les Vendéens s'écrient « Vive le roi, la noblesse, le clergé ». Le 28 juillet 1789, les révolutionnaires viennent incendier le château de Moidières, en Dauphiné, au diocèse de Vienne. Ce sont les paysans du village qui tentent en vain de les en empêcher et recueillent les dames du château qui ont dû s'enfuir. Les paysans veulent défendre leurs coutumes, règles juridiques connues et acceptées de tous, qui règlent pacifiquement et de façon réaliste la vie quotidienne, et que les révolutionnaires veulent remplacer par des règles artificielles, nouvelles et inconnues, source d'injustice et d'incompréhension. C'est toute la société qui est à défendre, et toute la hiérarchie qui est l'ossature de la société. C'est, en définitive, le bien commun qui est en jeu. Saint Thomas d'Aquin dit que la loi est une ordonnance de la raison en vue du bien commun, promulguée par celui qui a le soin de la communauté. Or, là, les prétendues lois révolutionnaires détruisent le bien commun. Il est donc licite de s'y opposer. Cinquième raison, la défense du pays. Même en s'appuyant sur des troupes étrangères, ce sera toujours pour la France que chacun combattra. À Toulon, quand la flotte anglaise arrive en 1793, à Quiberon, quand la flotte anglaise fait le transport en 1795, les Français exigeront la présence du drapeau blanc à côté des drapeaux anglais. L'armée de Condé combattit sous le drapeau blanc, même si c'était au sein des armées étrangères. Certains, comme M. de la Marche, évêque comte de Léon, étaient hostiles à l'intervention des Anglais, qui feront d'ailleurs tout pour nuire à l'expédition de Quiberon. Sixième raison, la défense du roi. Le roi est le souverain légitime, le père de ses peuples qui n'ont pas à se plaindre de lui. Héritier d'une monarchie de près de 14 siècles. Il est de plus tombé pour avoir voulu protéger la religion par son refus des prêtres constitutionnels et ses vétos contre les décrets déportant les prêtres catholiques. Et le pape Pie VI le proclamera martyr le 17 juin 1793. La défense du roi va de soi pour presque tous les Français. Louis XVI a été Louis XVII a été reconnu comme roi par presque tous les Français et par presque tous les pays d'Europe, y compris par le pape Pie VI. Et en 1800, le pape Pie VII écrit pour son avènement à Louis XVIII comme au roi très chrétien. En 1791-1792, nombre de Français, parfois très jeunes, se proposent en otage à la place du roi. Ainsi, le marquis de Saint-Poncy et le comte de La Rochelambert-Lavalette, en Auvergne, ou Anne du Vergier de La Roche-Jacquelin, sœur des deux futurs généraux vendéens, à 17 ans, etc. La devise de la Vendée est « Dieu et le roi ». Les armées de la Grande et des Petites Vendées s'appellent « Armées catholiques et royales ». Les paysans vendéens crient « Vive le roi !» Charette, à qui ses juges demandent pourquoi il a combattu, répond « Pour mon Dieu, mon roi et ma patrie. » Le clergé pense de même. Monsieur de Galard de Thérobe, évêque du Puy et comte de Velay, répond en 1796 au roi Louis XVIII « Quand même le respect, l'amour, la fidélité inviolable envers nos rois ne seraient pas nés avec nous, la religion seule les graverait profondément dans nos âmes. Dans la persécution que le clergé fidèle a l'honneur de souffrir pour la justice, il se glorifie également d'être la victime de son amour pour la religion et le roi. Pendant le cours de 14 siècles, la France n'avait connu que par son bonheur le prix et la nécessité de l'alliance sacrée de la monarchie avec la religion. Le ciel semble avoir voulu mettre le sceau à ce grand témoignage, permettant que tous les fléaux soient sortis du même coup dont l'impiété a frappé l'autel et le trône. Les impies et les rebelles n'ont commis tant d'attentats contre la majesté royale que parce qu'ils ont méconnu et violé tous les droits de la majesté divine. L'évêque montre là que seule la religion est le soutien de l'État et que la Révolution a attaqué la religion et l'État parce que dans la société, tout est lié. La mère Anne-Madeleine de la Croix, née Anne Vial, carmélite du couvent de Lyon, guillotinée à Lyon le 5 avril 1794, interrogée par ses juges, après avoir protesté de sa fidélité à ses vœux et de son refus du serment de liberté-égalité, dit « Je n'aime point la Constitution républicaine, mais j'aimerais mieux l'Ancien Régime. J'ai été fâché de la mort du roi comme on doit l'être de la mort de tous les malheureux, et si Louis XVI vivait encore, je l'aimerais comme un sujet doit aimer son prince. Je ne l'ai jamais regardé comme l'oppresseur de son peuple, et j'ai prié Dieu pour lui. » La mère Anne-Constance de la Sainte Trinité née Moline, du même couvent, arrêtée elle aussi, mais qui ne sera pas guillotinée, répond à ces questions de façon plus vague. Mais voyant que l'on profane un crucifix trouvé sur elle, elle ne peut retenir son indignation et s'écrie « J'abhorre la République ». Il s'agit d'un tout que presque personne, ni les contre-révolutionnaires, ni les révolutionnaires, n'eussent songé à dissocier. L'on combattit pour le roi, car l'Église fait un devoir d'être fidèle à ses supérieurs légitimes. L'on fit un combat politique pour des raisons religieuses, comme le disait le marquis de Roux, « Si l'inspiration de la guerre de Vendée, disait-il, fut toute religieuse, ce fut la conception religieuse d'un devoir politique, celui de ne pas coopérer activement à soutenir un pouvoir jugé en conscience, usurpateur contre le pouvoir légitime. » D'ailleurs, combattre pour le roi, c'était protéger la religion qui serait revenue avec le roi. C'était le combat pour la société chrétienne, pour la chrétienté. Comme le disait Jean Yol en 1938, les deux fois, religieuses et monarchiques des Vendéens, n'en faisaient qu'une dans le cœur de l'homme qui ne songeait même pas au partage possible. La révolution a été chez nous un changement imposé dans les croyances, dans toutes les croyances. Dès lors, l'insurrection qui lui a répondu est née d'un drame de conscience, de toute la conscience. Elle a réagi avec toute son âme et avec toutes ses fidélités, fidélité à Dieu, à la famille, au maître, au roi. D'ailleurs, alliance ancestrale n'a jamais été confusion des deux. Lorsque la Convention, en 1795, puis le Consulat, en 1801, permettent une certaine liberté du culte en Vendée, même si c'est sans reconnaissance de la religion, les paysans vendéens déposent des armes. Ils n'abandonnent pas leur fidélité, mais devant les difficultés, se contentent d'avoir obtenu le principal. Les évêques unissent, mais distinguent. La plupart écrivent une fois ou l'autre aux prêtres de leur diocèse de rappeler aux fidèles leur devoir envers le roi. Mais généralement, leurs instructions sont purement religieuses. Quand, en 1797, le roi Louis XVIII propose aux évêques de donner aux prêtres une mission politique, les évêques, notamment M. Talleyrand Périgord, archevêque duc de Reims, primat de la Gaule-Belgique et pair de France, M. de la Marche, évêque comte de Léon, M. de Bonal, évêque de Clermont, M. Asseline, évêque de Boulogne, refuse. En 1796, dans un projet purement religieux de Louis XVIII, qui espérait coordonner l'action des évêques dans l'apostolat par une commission composée de certains d'entre eux, l'avis des évêques est partagé. Et certains, avec une indépendance d'esprit toute d'Ancien Régime, n'hésitent pas à refuser, tel M. de Marboff, archevêque comte de Lyon, primat des Gaules, ou M. de Dillon, archevêque de Archevêque, pardon, Monsieur de Marbeuf, archevêque comte de Lyon, primat des Gaules, ou Monsieur de Dillon, archevêque de Narbonne, primat de la Gaule narbonnaise. En revanche, quand la religion est en jeu, les évêques peuvent être plus royalistes que le roi. En 1797, en effet, lors du serment de haine à la royauté, condamné par le pape Pie VI, car on ne peut haïr que le mal, le roi Louis XVIII exclut qu'il puisse être prêté par les ecclésiastiques, car ce serait trop contraire à leur état, mais le tolérerait pour les laïcs. Les évêques lui disent carrément que ce qui est immoral l'est aussi pour les laïcs, notamment M. Talleyrand Périgord, archevêque duc de Reims. Septième raison de la contre-révolution, la défense de la religion. Celle-ci va de soi, et nous avons vu qu'elle primait et inspirait toutes les autres. Le refus des serments, la fidélité aux vœux monastiques, la fidélité au pape et aux prêtres catholiques seront le principal motif de la contre-révolution. En février 1791, mesdames Adélaïde et Victoire de France, tantes de Louis XVI, émigrent pour pouvoir remplir librement les devoirs de la religion. Elles parviendront difficilement à la frontière car on les arrêtera en route, mais elles s'établiront à Rome. Obligées plusieurs fois de fuir, elles mourront d'épuisement à Trieste, dans les États d'Autriche. Le 2 mai 1791, à Saint-Christophe du Ligneron en Vendée militaire, lors de l'arrivée du curé intrus, la maréchaussée tire. Un paysan, barillon, blessé, s'adosse à un calvaire, la fourche menaçante. « Rends-toi !» lui enjoignit un gendarme. « Rends-moi mon Dieu » réplique-t-il. Et il s'écroula, criblé de balles. Au Carme de Paris, le 2 septembre 1792, un officier militaire, M. de Valfond, prisonnier, tiendra à être associé au prêtre martyr. Et ne pouvant refuser un serment qu'on ne lui demandait pas, il protesta de sa foi catholique, apostolique et romaine et sera massacré avec les autres. Il sera béatifié par le pape Pie XI. Marie-Catherine Gabrielle de Chamboran, carmélite du couvent de Saint-Denis, est guillotinée à Paris le 27 mars 1794, déclara « Je suis fille de l'Église catholique ». Le maréchal duc de Mouchy, guillotiné à Paris le 27 juin 1794, déclare « À 15 ans, j'ai monté à l'assaut pour mon roi. À 80, je vais monter à l'échafaud pour mon Dieu. Mes amis, je ne suis pas à plaindre. » Mourant, Jacques Catelineau, premier généralissime de la grande armée catholique et royale de Vendée, dit en juillet 1793 à sa femme « Redit souvent aux enfants que leur père, en prenant les armes, n'a cherché qu'à sauver la religion catholique dans laquelle ils ont été baptisés. Malgré le désir des autorités ecclésiastiques de ne pas béatifier les martyrs de la Révolution qui ont eu un rôle politique, et cela dès le pontificat de Pie XI au moins, le procès en béatification de Catelineau, le saint de l'Anjou, a été ouvert en 1986. La Révolution entraîne beaucoup de conversions à la foi. Mathieu de Montmorency-Laval, futur duc et pair de France, un des acteurs du 4 août 1789. Le comte d'Artois, futur roi Charles X. Un prélat très mondain, bien que sa foi et ses mœurs soient au-dessus de tout soupçon, le cardinal prince de Rohan-Guéméné, évêque-prince de Strasbourg, landgrave de Basse-Alsace, aura en exil une vie des plus édifiantes, vivant pauvrement pour pouvoir héberger et nourrir de nombreux prêtres et émigrés. Les mœurs de ces défenseurs de la foi sont donc catholiques, que l'on pense au pater de Delbé ou au pardon de Bonchamp mourant. Mais régulièrement, les Vendéens laisseront la vie sauve à leurs prisonniers. Après le 6 octobre 1789, la reine Marie-Antoinette d'Autriche déclarera à la commission d'enquête « J'ai tout vu, tout compris, tout oublié ». Et le roi Louis XVI, sur son échafaud le 21 janvier 1793, Je pardonne aux auteurs de ma mort et je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Alors l'Église doit-elle demander pardon pour la contre-révolution? Sans elle, le christianisme aurait été irrémédiablement étouffé en France et en Europe. Les fidèles qui y ont participé, chacun à leur place, se sont sanctifiés pour ce faire et ont sauvé la France et l'Église. Non entièrement cependant, ce qui a obligé la contre-révolution d'être toujours active, bien que souvent sous d'autres formes, au XIXe siècle et au XXe siècle. Nous devons donc leur rendre grâce et prier ceux d'entre eux qui sont au ciel, notamment les martyrs, béatifiés ou non, et qui ne cessent d'intercéder pour nous afin que nous soyons dignes de leur fidélité et de leur combat. Je terminerai par l'évocation de l'une des plus pures contre-révolutionnaires, Madame Élisabeth de France, de laquelle on va célébrer l'anniversaire de la mort le 10 mai prochain, dans 5 jours. D'instinct, elle s'oppose à la Révolution, de toute son âme attachée profondément à la foi catholique et au respect royal. Quasi prisonnière aux Tuileries, elle refusera de partir pour rester auprès du roi, qu'elle encouragera à ne pas plier. Et elle continuera ses œuvres de bonté. Prisonnière au Temple, puis jugée le 10 mai 1794 à la Conciergerie, à la question sur son nom, elle répondra « Élisabeth Marie de France, sœur de Louis XVI, tante de Louis XVII, votre roi. » On lui reprocha d'être la complice des crimes de Louis XVI. Auprès des autres condamnés, elle fera œuvre de consolation et d'espérance du ciel. Sur l'échafaud, chaque femme lui fera la révérence et l'embrassera. Les hommes lui feront aussi la révérence. Tandis qu'elle-même récitait le De Profundis. Sa mort sèmera la consternation dans toute la France et à l'étranger. Puisse-t-elle être notre médiatrice auprès de Jésus-Christ, roi de France, et de Notre-Dame, reine de France. S'il y a des questions. S'il y a des questions. C'est toujours le même problème. La faiblesse des bons et l'absence de scrupules des mauvais, des méchants.
Bon, alors,
Une révolution ne peut jamais avoir lieu si la majorité des gens est révolutionnaire. Elle ne peut avoir lieu que si elle est faite par une petite minorité. Car on ne peut pas manier une majorité. On ne peut manier qu'un petit nombre d'hommes. C'est l'expérience de toute la révolution.
Je veux dire, si toute la France avait été révolutionnaire, il n'y aurait pas eu de révolution.
Ce serait, du moins, peut-être pas passé comme cela. Mais il est certain qu'il n'y aurait pas pu y avoir les événements révolutionnaires qu'on a connus, oui. Si toute la France avait été révolutionnaire, la foi aurait péri d'inanition. Il n'y aurait pas eu besoin de tous les événements qui ont eu lieu. Mais pour faire une révolution véritable, violente, il faut être une petite minorité.
Peu d'hommes convaincus de la révolution, mais beaucoup de troupes.
Ah, de troupes naïves, oui. Beaucoup, au moins au début, au moins après. Et la ligue de la population, à qui on peut faire ce que l'on veut, du moment qu'il s'agit de piller, boire, tuer, profaner. Ah oui, bien sûr. Enfin, je parlais de la contre-révolution, non pas de la révolution. Hein. Oui, c'est évident. Oui. Mais la franc-maçonnerie elle-même était en fait gouvernée par une petite minorité qui seule savait les buts ultimes de la franc-maçonnerie. Il y avait beaucoup de naïfs à la base, des gens qui en savaient un peu plus à un niveau intermédiaire, et puis en haut, il y avait une petite minorité qui savait exactement tous les projets. Alors bien sûr, oui. Il y a encore des naïfs. J'en ai connu, oui. J'en ai encore des naïfs, oui. Malgré tous les événements, oui.
D'où vient cette idée que l'Église devrait demander pardon?
Je ne sais pas qui l'a découvert. Les révolutionnaires et les ennemis de l'Église en général veulent cela parce que cela permet d'humilier l'Église et donc de la détruire. Et puis les catholiques qui veulent demander pardon, là aussi, ce sont des naïfs. Ou alors des modernistes, des gens infiltrés, enfin, etc.
Ce ne sont pas des catholiques, si il faut vous demander pardon.
Il y a les naïfs. Oui. Il y a les naïfs. Oui. Les naïfs qui sont catholiques plus ou moins bien, mais qui le sont au moins d'intention, mais qui sont naïfs. Et puis il y a ceux qui sont infiltrés et qui ne sont catholiques que de nom, qu'officiellement, qu'extérieurement. Remarquez bien que l'Église catholique, malgré les apparences, continue à être privilégiée. C'est la seule à devoir toujours demander pardon. On ne le demande ni aux protestants, ni aux juifs, ni aux musulmans, ni aux païens en général. Bien sûr. Enfin, de... Oui, plus ou moins, en tout cas, des ennemis de l'Église, de façon générale, et plus spécialement de la franc-maçonnerie et de la contre-Église.
Monsieur, on avait trouvé la résistance à l'heure actuelle.
Quelle résistance actuelle?
À l'heure actuelle, il n'y a pas tellement de résistance contre...
Contre la Révolution? Oui.
Contre l'Église qui est en...
Sans aucun doute. Et attendez, quelles conséquences en tirez-vous?
Si on avait aussi bien réagi, on aurait évité peut-être...
Si actuellement nous avions aussi bien réagi que nos ancêtres il y a deux siècles. Les circonstances sont très très différentes. Très différentes.
C'est les principes révolutionnaires.
Oui, sans aucun doute. Mais...
L'audace des mouvements dont vous parlez vient de ce fait, c'est que les élites religieuses sont gagnées à l'esprit
révolutionnaire. Tout à fait. Mais alors, les unes par naïveté. Et les autres, parce qu'elles sont infiltrées ou gagnées, en tout cas, à la cause révolutionnaire. Toujours. Faiblesse des bons, trop bonne conscience des bons, manque d'organisation des bons. Combien de mouvements armés contre-révolutionnaires ont échoué parce que les émeutes n'ont pas eu lieu en même temps, parce que les chefs se sont disputés? Manque de coordination, oui. La petite église, c'est un problème un peu marginal hein, pour ce sujet. La petite église est contre-révolutionnaire, sans aucun doute, même ardemment. Mais c'est un problème qui est lié au concordat de 1801 et à la démission forcée des évêques. Quand le consulat a obligé le pape, qui n'a cédé que contraint et forcé, à faire démettre tous les évêques français de gré ou de force. Et donc, un peu plus de la moitié des évêques a accepté, un peu moins de la moitié des évêques a refusé. La plupart se sont contentés de protester et de se considérer toujours comme évêques de leur diocèse, mais en recommandant à leurs ouailles de s'adresser à un nouvel évêque concordataire, au moins à titre de délégué du souverain pontife. Quelques autres ont été plus actifs. Et un certain nombre de prêtres aussi. Et alors, certains prêtres et certains fidèles ont refusé de communiquer dans les choses sacrées avec les évêques concordataires et avec le successeur, même après la restauration, même après la suppression du concordat de 1801 en 1905. Et donc il en reste encore à l'heure actuelle, qui sont sans prêtres parce que les évêques n'ont jamais voulu sacrer d'évêques. Puis le dernier est mort, puis les prêtres sont morts aussi, et ils sont sans prêtres, reconnaissent toujours le souverain pontife, mais il y a eu des tentatives de conciliation, la dernière a eu lieu sous Pie XII, mais tout a échoué parce que rien n'est jamais allé jusqu'au bout. Fraternité Saint-Vidis ou non, peu importe, il refuse de communiquer avec les évêques successeurs des évêques concordataires de 1801.